France Inter.
Bonjour, c'est Eva Bester. On continue de célébrer l'acte d'écrire avec Jean Echenoz pour son roman Bristol, paru début janvier aux éditions de Minuit. Écrire, épisode 3, Jean Echenoz. Chers auditeurs, ce soir, j'ai l'honneur de recevoir un écrivain que je lis depuis 3 décennies et que je vois pour la première fois, Jean Echenoz. Il est rare et discret, se dérobe volontiers comme ses personnages et leurs actions, qui peuvent se faire et se défaire en une seule ligne. Celui qui fait partie du club restreint des vivants ayant eu un cahier de Lerne s'amuse à détourner les codes des romans policiers d'aventure ou d'espionnage quand ce n'est pas ceux du roman lui-même. Son écriture cinématographique est tissée de références intertextuelles ou encyclopédiques. On ne sait jamais ce qu'on va y apprendre, mais l'on sait que les objets ont une âme. Pour preuve, le fait qu'il soit si souvent personnifié par l'écrivain. Ou alors ce n'est qu'un énième changement de perspective, chose avec laquelle il s'amuse souvent. S'il était un caméraman qu'on suivait dans ses mouvements, on serait vite essoufflé. Il a reçu le prix Médicis pour son polar Cherokee, loué par un Manchette disant qu'il aurait dû être une autodestruction et un ratage, un sommet de l'effondrement, hors nom, ça tient. Il a aussi obtenu le prix Goncourt pour le livre « Je m'en vais ». Celui qui écrit des fictions sans scrupules autobiographiques sur des personnages réels comme le compositeur Maurice Ravel, le marathonien Émile Zatopek ou l'ingénieur Nikola Tesla qu'il rebaptise Grégor, invente aussi des types aux noms réjouissants comme Gérard Fulmar, Crocognan, Raipoutek Fratsnats ou Zircon qui est un chien. La dernière vie imaginaire sortie de la psyché de l'écrivain est celle d'un certain Robert Bristol qui s'apprête à tourner un film dans le sud-est africain et n'a pas vu, en sortant de son immeuble, un corps chuter au sol. C'est drôle, plein d'inventivité, de musicalité et très cinématographique, mais je commence à me répéter, Bristol est paru ce début d'année aux éditions de Minuit. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Jean Echenoz.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
La dernière chose qui m'a enthousiasmé, je ne sais plus du tout. Pourtant, je m'enthousiasme assez facilement. Une lecture, sans doute, mais je ne sais plus laquelle.
Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ?
Ces derniers temps, je relisais des nouvelles de Joseph Conrad.
Ah bah justement, c'est la découverte que vous avez choisie pour les auditeurs.
Ouais, parce que c'est le livre que j'ai le plus offert. Et puis c'est un livre auquel je reviens régulièrement.
Il vous a influencé pour L'échappée malaise ?
Le livre qui s'appelait L'équipée malaise, ça devait reprendre, c'est une espèce de commande que je m'étais passée pour une espèce de roman d'aventure maritime. Et donc, oui, il y avait forcément des échos des livres de Conrad, même si c'est plutôt un romancier psychologique en vérité, ce sont pas vraiment des romans d'aventure, mais il y a ce décor là qui était important dans le cadre du livre.
Mais alors justement, là vous parlez de psychologie, votre père était psychiatre, est-ce que c'est pour ça que vous n'aimez pas la psychologie explicite dans vos romans?
Moi, la psychologie, ça m'intéresse beaucoup. Puis dans chez certains romanciers, je veux dire, chez Marcel Proust, chez Henry James, je suis très lecteur de ça. Mais pour mon travail, pour les romans que j'essaie d'écrire, je préfère l'éviter. Je préfère décrire des comportements, des situations, de façon plus concrète. J'ai pas envie, peut-être que j'ai ni l'envie ni le talent de développer des choses psychologiques. Je crois que ça m'ennuierait en vérité. C'est pas là où je me retrouve dans la fabrication d'une fiction.
En tout cas, vous vous retrouvez dans la fabrication de choses assez fantaisistes. Et j'ai lu que vous aviez un temps travaillé pour Pif Gadget.
Dans ma jeunesse, il fallait bien trouver des tout petits métiers.
Qu'est-ce que vous y faisiez?
J'étais testeur de gadgets chez Pif, oui.
Vous vous souvenez de certains gadgets?
Je proposais des gadgets à une population d'enfants, et puis j'enregistrais leurs réactions. Mais j'ai été assez rapidement foutu à la porte, parce que ils n'étaient pas très contents de mon travail. Mais c'était intéressant. C'était surtout les gadgets qui étaient intéressants.
Vous vous souvenez d'un gadget que vous avez inventé?
Moi, j'ai rien inventé.
Ah, mais c'était des gadgets qui existaient déjà et que vous soumettiez.
On me proposait des objets que je faisais éprouver à de pauvres victimes.
Est-ce que vous avez toujours un problème avec le mot écrivain?
C'est pas vraiment un problème, c'est que il faut du temps pour penser qu'on l'est. En fait, écrivain, on essaie de l'être, ça commence à faire longtemps. Donc maintenant, comme je commence à être assez vieux, je me suis fait à ce mot. Mais avant, j'avais l'impression que c'était plutôt on désignait quelqu'un comme écrivain, mais se définir soi-même, ça me paraissait un peu peut-être présomptueux, je sais pas. Mais bon, maintenant, ça fait longtemps que je suis dans cette situation.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Jean Richenoz, vous publiez votre 19e livre aux éditions de Minuit. Vous avez été publié à vos débuts, comme vous le souhaitiez, par le culte Jérôme Lindon, ce que vous racontez dans l'ouvrage qui porte son nom, un texte paru juste après sa mort et dans lequel vous écriviez « Maison trop sérieuse, trop austère et rigoureuse, essence de la vertu littéraire, trop bien pour moi, même pas la peine d'essayer ». Vous êtes timide, vous êtes d'un naturel peu confiant?
C'est pas exactement ça, c'est que... timide un peu, oui. Mais non, c'est que... Au départ, ce premier roman, c'était... comme c'était une époque où le roman n'avait pas vraiment la cote, disons...
C'était le Méridien de Greenwich.
C'était le Méridien de Greenwich, oui. Parce qu'au départ, ce que je voulais, c'était juste faire un roman policier, quoi, parce que je ne savais pas très bien où j'allais me... je sais pas très bien comment. Ça me paraissait un bon support de travail, le roman policier, à cette époque. Et puis je me suis rendu compte, en avançant sur ce livre, que je partais dans des directions qui n'étaient pas exactement celles du canon, quoi, de ce genre-là. Puis après, quand il était fini, il est vrai que j'ai pas osé l'envoyer aux éditions de Minuit, parce que ça me paraissait... C'était encore l'époque du nouveau roman, de la théorie assez... un peu austère, c'est vrai, et même si mon désir un peu idéal, c'était de me retrouver dans cette maison que je respectais beaucoup. Donc oui, c'est un peu passé par tous les refus des autres maisons, et puis Jérôme Lindon l'a pris très vite quand il l'a lu. Oui. C'était un moment important, quoi.
Vous aimiez bien Rob Grillet, par exemple, chez Minuit, Les Gommes.
Oui, Les Gommes, je l'ai lu assez jeune. Et c'est... Rob Grillet, je suis pas sûr que je le relirai beaucoup, mais je sais que dans Les Gommes, il y avait quelque chose qui m'avait frappé à ce moment-là, c'était l'utilisation des objets, presque comme personnage. Et ça, c'est quelque chose qui était neuf par rapport à toutes les lectures que j'avais, qui étaient plus classiques. Et ça c'est resté. C'est quelque chose dont je me suis servi d'utiliser un peu les objets comme des personnages et de les personnaliser d'une certaine manière. Mais ça se trouve, avant Rob Grillet, ça se trouve déjà chez Dickens. Dickens personnalise les objets comme il objective les personnages, comme il objectalise, je ne sais pas comment dire. Donc c'était déjà là.
Alors il y a un roman de Dickens justement que vous adorez, qui est une merveille, c'est De Grandes Espérances.
Ah ben, De Grandes Espérances, ça a été, je crois, le premier livre de littérature que m'avait fait lire ma mère, d'ailleurs. C'est elle qui m'avait orienté vers ça. Et ça, c'était, oui, je crois que c'était dans le rapport à la... Auparavant, je lisais beaucoup d'ouvrages de jeunesse, enfin, tout ce que lisent les enfants, les adolescents. Mais ça, c'était la littérature qui arrivait, et c'était vraiment une voie royale. Ça, c'était un émerveillement.
Vous étiez plutôt intéressé à vos débuts par la géographie.
Vous voulez dire...
Vous dites aujourd'hui que vous écrivez des romans géographiques, mais ça vous intéressait littéralement, la géographie.
Eh ben malheureusement pas assez, en fait, parce que j'ai été un élève assez médiocre, il n'y avait que le français qui m'intéressait. Et je regrette d'ailleurs parce que la géographie c'était quelque chose que rétrospectivement j'aurais dû me passionner pour ça, parce que c'est venu beaucoup plus tard.
Et on te retrouve plein de rues, Paris excite votre imaginaire.
Ben oui, parce que c'est un décor de fiction, enfin moi j'ai toujours perçu Paris comme... plusieurs décors de fiction, selon les arrondissements, selon les quartiers. Moi, je suis arrivé à Paris, j'avais, je sais pas, 22 ans, et ça m'est immédiatement apparu. J'avais toujours ce désir d'écrire des romans, d'écrire tout court, quoi. Et Paris m'est apparu tout de suite comme une espèce de moteur, enfin une série de moteurs possibles pour raconter des histoires.
On est vers République dans Cherokee, rue Erlanger dans La Nouvelle du Même Nom et Vite Gérard Fulmar, et rue des Eaux dans Bristol, une rue, apprend-on grâce à vous, Jean Echenoz, dont se sont emparés les écrivains Émile Zola, Bolaño et puis les cinéastes Bertolucci, Rivette ou Ackerman. Tanguy Viel, au même micro que vous, et qui apparaît dans votre cahier de Lerne, confiait l'importance de la géographie et des lieux sur ses intrigues. Et je me demande comment vous procédez. Parce que par exemple, dans Bristol, on croise la ville de Panazol, Saulzel-Potier, Bruère, Alichamp, Saint-Armand, Montron, on peut se dire que ça n'existe pas si tout est très documenté.
Ah oui, oui, oui.
Comment vous trouvez les lieux ?
Y a deux choses. D'une part, il y a des lieux qui donnent envie d'écrire, et il est vrai que il y avait cette rue dans le 16e pour le roman précédent, qui était la rue Erlanger, qui m'intéressait pour diverses raisons anecdotiques aussi. Et puis la rue des Eaux, elle m'a toujours plu, elle est juste à côté de la maison de la radio. Et je suis retourné souvent, j'ai fait une espèce d'inventaire des immeubles, j'ai même compté toutes les marches qui la séparent, parce que je voulais être précis dans le livre.
Et vous dessinez aussi, vous faites des croquis dans vos carnets de travail.
Oui, un peu, mais enfin c'est surtout des notes, quoi. Ouais.
Parce qu'on voit des dessins dans Lerne.
Oui, à un moment j'avais fait des dessins, mais c'est il y a longtemps. Oui, c'était pour un bateau, je crois. Mais d'une part, il y a ces lieux qui donnent des idées, bizarrement, on ne sait pas très bien pourquoi. Et puis quand il s'agit de décrire un parcours, là j'essaie d'être le plus précis possible. Et là j'utilise des cartes, des plans, voilà.
Vous avez étudié la sociologie et l'ethnographie à Aix-en-Provence. En 70, vous arrivez à Paris et vous inscrivez à la Sorbonne, à l'école pratique des hautes études aussi.
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce que vous lisiez pour le plaisir, Beckett ?
À cette époque-là, oui, je crois que je lisais Beckett, qu'est-ce que je lisais ? Je ne sais plus.
Quel jeune homme étiez-vous ?
Quel jeune homme ?
Oui.
Je crois que j'étais pas très liant. Je crois que j'étais un peu timide, un peu apeuré. Je me suis un peu arrangé avec le temps, mais juste. Hein.
Ouais. Vous aviez peur de quoi ?
C'est une drôle de question. Peut-être que j'avais un peu peur de ce que j'allais devenir, j'avais évidemment ce désir d'écrire depuis l'enfance, qui est assez banal chez les gens qui ont cette activité, c'est que ça arrive souvent très tôt, et au fond, ce désir, je savais pas très bien si j'allais pouvoir le concrétiser, en faire quelque chose... Donc c'est ça, j'attendais de voir. Et c'était des années où j'ai fait une espèce de... Ouais, où j'écrivais un peu, pas n'importe quoi, mais ce qu'on pourrait appeler des pages d'écriture, quoi.
On voulait pas raconter une histoire à trois personnages à qui il arrive une petite chose au milieu, et puis une scène dans un restaurant, et puis à la fin ils se quittent, ils se retrouvent. Je veux dire, on voulait que ça soit des histoires... qui sortent d'un cinéma que tout le monde peut reconnaître, des histoires repérables... Alors c'est des histoires de cinéma français qu'on trouve dans le cinéma français, qu'on trouve dans le cinéma américain beaucoup, et puis faire en sorte que ce soit comme des poupées gigognes, c'est-à-dire comme un jeu qu'on joue avec les histoires, et que toutes ces histoires ensemble, ça fabrique un seul et même récit.
Jean Ichenoz, on entend le réalisateur Robert Pansard-Besson en 82 sur France Culture, ça vous dit quelque chose ?
Ah bah oui, parce que Robert, c'était un ami de jeunesse, et c'est un peu comme ça que... C'est, avec lui, on avait coécrit un scénario.
Le Rose et le Blanc.
Le Rose et le Blanc, oui, qui n'a pas eu, on ne peut pas dire qu'il a eu... Il a eu un prix assez joli, mais il n'a pas eu un succès extraordinaire. Mais en fait, ce qui s'était passé, c'est que moi, j'avais toujours ce désir romanesque. Bon, puis Robert Pansard-Besson m'avait demandé de travailler avec lui sur ce scénario. Et puis un jour, on l'a terminé. Lui, il est parti faire son film, et je me suis retrouvé tout seul, quoi. Et c'est à ce moment-là, je crois, que j'ai commencé le premier roman, le Méridien de Greenwich. Ça a commencé là, avec la fin d'un travail et le début d'une histoire, quoi.
Il y a cet amour de la littérature que vous évoquez depuis le début de l'émission, mais il y a aussi un amour du cinéma. Vous dites même qu'à une période, vous faisiez très peu de choses et donc vous y alliez tout le temps. Vous avez même fugué pour aller voir Pierrot le Fou.
Oui, ça c'était, je crois que c'était en classe de terminale. Mes parents, enfin nous habitions dans une petite ville du Sud-Est, et Pierrot le Fou passait, je me souviens, c'était à Aix-en-Provence. Et ouais, j'ai pris un train sans prévenir pour aller voir ça. Et il est vrai que Pierrot le Fou fait partie des basculements, enfin des choses qui ont de nouvelles lumières qui arrivaient. Ça n'a pas été toujours le cas avec tous les films de Jean-Luc Godard ensuite, mais pendant longtemps, ça a été très très important, les premiers films de Godard.
Mais dans votre écriture, Jean Ichenoz, on dirait que vous vous demandez toujours où placer la caméra. Et vous changez sans cesse d'angle de prise de vue.
Ben, oui, c'est-à-dire que comme y a eu ces années où j'allais vraiment beaucoup au cinéma, enfin j'y passais un peu ma vie, quoi. Enfin, j'avais pas grand-chose à faire. Et j'avais l'impression, enfin c'est quelque chose que je dis toujours un peu bêtement, c'est que j'apprenais au cinéma des choses sur la littérature. C'est-à-dire que, ou plus exactement, je voyais comment la littérature pouvait utiliser la grammaire, la rhétorique, le langage du cinéma. Et ça, je crois que ça m'a jamais quitté, parce que j'ai toujours un peu l'impression de jouer un peu au metteur en scène dans les livres, sauf que évidemment l'avantage que j'ai, c'est que je suis seul, alors que si j'étais un vrai metteur en scène, ça serait travailler avec beaucoup de monde, et ça, je crois que je pourrais pas.
Est-ce que quand vous regardez le réel, c'est la même vision des choses que vous avez, vous passez d'une personne à une autre, d'un objet à un autre environnement, d'une échelle à une autre
dans le réel?
Ouais.
Bah, dans le réel, il est vrai qu'il y a une espèce de filtrage qui se fait, ou de, je sais pas, c'est comme un aimant qui attire de la limaille de fer. Hein. Quelquefois, quand on est sur un projet, dans la rue, dans le métro, je sais pas, chez des gens, que ce soit un objet ou une phrase comme ça qui tombe et qui tombe un peu comme si le projet l'attirait. En fait, c'est tout simplement parce qu'on est tellement préoccupé par cette chose en cours que tout est bon pour l'alimenter.
Je vous lis un extrait de Bristol qui vient de sortir aux éditions de Minuit. Ils lèvent les yeux vers la façade de l'immeuble où des fenêtres se sont ouvertes. Bien cadrées dans leurs embrasures, trois locataires observent le drame en exhalant des phylactères de buée. En professionnel de l'image, Bristol note mentalement ce plan, idée de contre-plongée qui peut toujours servir. Vous êtes parfois un peu ce Bristol ?
En professionnel de l'écriture, si j'ose dire, oui, on peut repérer des choses dont on se dit ça a une espèce de pertinence romanesque, pour parler vite, quoi.
Alors, ce Robert Bristol doit adapter un roman de Marjorie Desmarais intitulé Nos cœurs au purgatoire. Il y a une jeune actrice qui lui est imposée, Céleste Open, et ça commence, le roman, par un corps qui chute, mais c'est presque anecdotique, puisque Jean Ichenoz, vous ne semblez pas faire de hiérarchie entre les sujets. Un objet compte autant dans la narration qu'un événement tragique.
Il y a peut-être pas forcément de hiérarchie, oui. Et puis le fait de démarrer comme ça sur la chute d'un corps, c'était à la fois une espèce d'événement brutal, comme entrée dans le livre, et et qui justement, enfin, dans l'idée que je me faisais de ce que ça allait devenir, était un peu banalisé. Et qu'au fond, ça faisait partie du quotidien du personnage, comme sa vie au bureau, sa vie amoureuse, sa vie... Ça m'intéressait. Ça s'est trouvé comme ça, au fond. C'est que cette scène violente, elle est comme un peu neutralisée par le quotidien du personnage.
Pour qu'on entende un peu votre traitement des événements, est-ce que vous accepteriez de lire un extrait de Bristol, la page 10 et 11?
Si vous voulez.
Ah oui, je veux. Si vous acceptez.
Ah, c'est long.
Ça commence mal. Vous pouvez vous arrêter où vous voulez.
Oui, je ne lirai pas tout.
D'accord.
Ce matin, Robert Bristol s'est nourri des mêmes aliments que la veille, l'avant-veille, toutes les avant-veilles et tous les surlendemains. Aux toilettes, il a lu 2 ou 3 pages d'un vieil ouvrage de genre intitulé « Par ici les embrouilles », dont l'intrigue déjà confuse, à ce rythme de lecture fragmenté, lui paraît de plus en plus opaque. S'est douché, rasé, toujours dans le même ordre, en commençant par la joue gauche, dans le sens du poil, pour finir sous le menton, en sens inverse, après un passage grimaçant derrière les maxillaires, où c'est moins accessible et qu'on ne voit pas bien dans le miroir. Et maintenant, prends tes médicaments.
Bristol, lu par Jean Echenoz et écrit par lui-même aussi. Et on reste avec vous.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Jean Echenoz, dans votre roman Bristol, paru aux éditions de Minuit, comme dans plusieurs de vos livres, il semble que le narrateur, les personnages et le lecteur et vous-même découvriez les choses pendant qu'elles s'écrivent. Par exemple, tout semble, vous n'arrêtez pas d'écrire « il semble », nous verrons bien.
Oui, parce qu'on n'est jamais sûr, et puis...
Et vous êtes le démiurge.
Non, je ne peux pas prétendre. Non, on est dans une fiction, donc il y a des hypothèses, il faut vérifier des choses. On avance dans une histoire un peu... Même si je sais ce qu'elle va devenir, il faut aussi qu'on avance un peu à l'aveugle, qu'on découvre les choses, qu'on suppose des situations, des solutions possible, qu'on se trompe, que...
Donc vous ne savez pas tout.
Je crois qu'il vaut mieux pas tout savoir. J'ai besoin d'une espèce de fil pour pas trop me perdre, hein, auquel je m'accroche d'une main, mais avec l'autre, j'essaie de découvrir d'autres choses. Et il vaut mieux pas tout savoir. Si je me suis rendu compte de ça avec un autre livre que j'avais fait. Si le plan est trop strict, si la contrainte est trop stricte, ça donne pas forcément. Il faut qu'il y ait une espèce de spontanéité en même temps qu'un contrôle. Enfin, c'est un dosage, quoi.
En tout cas, vous faites partie des écrivains les plus surprenants. On ne peut absolument pas prévoir ce qui va se passer à la page suivante, à la ligne suivante. Et même les titres ne donnent souvent pas d'indices sur l'intrigue. Je pense à Lac, Courir, Caprice de la Reine, Baobab, Cherokee, Bristol. Comment est-ce que vous les trouvez, ces titres?
En général, c'est vers la fin que ça s'impose. Si, Courir, quand même, c'était l'histoire d'un type qui court.
Oui, puis Je m'en vais, bon, c'est un type qui s'en va.
Je m'en vais, c'est l'histoire d'un type qui s'en va.
C'est vrai, mais bon.
Oui, mais...
Bristol, on pense à l'hôtel, d'abord.
Oui, enfin, oui, à l'hôtel, au port, à l'objet.
Bien sûr.
Ouais, mais d'abord, je préfère les titres courts, et puis... Je trouve que ça serait embêtant qu'un titre dévoile trop ce qui, l'histoire qu'il couvre. Une seule fois, j'ai trouvé le titre avant d'écrire le livre.
Jérôme Lindon ?
Non, c'était Les Grandes Blondes.
Ah oui. Vous amusez, en tout cas, en littérature, et c'est rare de s'amuser en littérature. On sent que vous aimez le jeu, vous inventez des choses comme la boisson Bulose, l'agence de mannequins Wolf and Lobo, ou le livre de développement personnel, Les 7 principes primordiaux de plénitude. Quel serait l'un de ces principes si on devait l'inventer, là, Jean Echenoz?
Ah ça, j'étais déjà assez content d'avoir trouvé ce titre. Je vais pas, en plus, trouver... entrer dans le détail, non. Puis la plénitude, malheureusement, je suis pas assez familier avec cet état.
Mince.
Bah ouais.
Mais bon,
ouais.
C'est j'en ai entendu parler. Je crois que c'est très peu accessible.
Oui, je pense aussi. Oui, oui, oui. Oui. Je préfère pas me risquer dans cette
non,
histoire.
Non, c'est très menaçant. Dans le cahier de Lerne qui vous est consacré, dirigé par Johan Farber, avec votre étroite collaboration, ce premier écrit que vous oscillez sans cesse entre l'ironie et la mélancolie.
Oui, parce que l'ironie, c'est quand même... L'ironie, c'est un mot qui me gêne un peu, parce que c'est un peu surplombant aussi.
Ah oui, plus que mélancolie.
Oui, je trouve. La mélancolie, malheureusement, c'est pas très surplombant.
Mais il semble que vous la fuyez sans cesse. Je sais pas, je pense à Au piano. Vous moquez presque la gravité. Il y a une scène dans le métro. Comme il ne se passe pas grand-chose dans cette scène, on pourrait l'occuper en parlant de ce ticket et suit un développement sur l'usage du ticket comme cure-dent ou cure-ongle. Et dans Bristol, vous écrivez, ne nous attardons pas sur la mélancolie qui s'est emparée de Bristol. Évitons de détailler ce tableau, préférons l'ellipse à l'hypotypose.
Oui, parce que s'attarder sur la mélancolie, ça serait rentrer dans la psychologie. Ça, j'ai pas très envie de le faire. Mais l'ironie, je trouve que c'est un peu réducteur. Je préfère tout simplement l'idée du rire, mais qui est pas réductible à la farce, à la plaisanterie, au gag. Moi, je sais que les auteurs très importants pour moi sont, il y a toujours un rire qui souvent traverse. Il y a du rire chez Marcel Proust, chez Flaubert, chez Beckett,
Dickens.
Oui.
Et qui d'autre? Qui vous fait rire en littérature?
Nabokov peut produire des choses comme ça, même dans les romans les plus cruels. Il y en a un dont j'ai oublié le titre français, mais le titre anglais c'est Laughter in the Dark, je crois, Rire dans la nuit, qui est un des livres les plus méchants qu'il ait écrit. Mais il est traversé par cette dimension du rire qui est encore une fois n'est pas réductible à la moquerie ou non, c'est...
Vous vous amusez quand vous écrivez? Quand par exemple vous mettez en scène une mouche qui va jusqu'à relever le montant d'un document fiscal?
Oui, à partir du moment où j'ai décidé que j'allais mettre ma caméra, si je puis dire, à la place de la mouche, il faut qu'elle ait différentes activités qui peuvent l'intéresser. Il faut qu'elle se repose. Oui, ça c'est un peu un jeu. Mais j'ai pas le souvenir de rire beaucoup quand je travaille, parce que précisément quand on essaie de faire une scène un peu légère comme ça, c'est un travail précis, quoi.
Comment vous travaillez justement la précision du vocabulaire, Jean Echenoz? Parce que j'ai relevé quelques mots dans Bristol: pellucide, infrutescence, un tourbillon de latérite, pulvérulente, pseudopode.
Oh, c'est pas vraiment des mots rares, hein. Enfin, c'est pas des mots.
On les utilise pas tous les jours. Pellucide, on m'en a parlé depuis longtemps, oui.
Oui, mais pseudopode, c'est, y a pas d'autre mot pour désigner cette chose-là.
Quelle est-elle?
J'ai oublié.
Ah bah voilà.
Mais la latérite, c'est la latérite. C'est ni le sable, ni c'est une terre rouge ou orange. Oui, c'est. Il faut être précis, quoi. Oui.
Vous fixez un cahier des charges pour tous vos romans. Tout à l'heure, vous avez dit « je me suis passé une commande ». Quelle était la commande pour Bristol?
Mais justement, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que les premiers livres, c'était vraiment des commandes qui étaient liées à des genres littéraires. Mais le livre précédent, là, Fulmar, c'était un système de contraintes qui était un peu trop lourd. Et là, pour Bristol, j'avais plus de liberté. Donc, c'était pas une commande au sens passé, quoi.
Dans l'introduction, j'ai dit que vous étiez difficile à cerner, que vous ne vous livriez pas aisément, et j'aimerais bien que vous nous parliez d'une expérience qui peut-être permettra de vous connaître un peu mieux, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'impudeur. C'est votre participation de 97 à 2001 avec d'autres écrivains à la nouvelle traduction de la Bible chez Bayard, dirigée par Frédéric Boyer. Vous avez traduit les livres de Samuel, Daniel, Josué et Maccabée, et vous avez trouvé ça passionnant.
Oui, Daniel, oui, c'était un travail passionnant, bien sûr. c'était un travail passionnant parce que, d'abord, c'était quelque chose qui était fait en... On était en binôme, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'on était plusieurs auteurs, et chaque auteur travaillait avec un bibliste. Bon, donc il y avait une espèce de d'échange permanent qui se faisait entre nous, qui était très... Enfin, moi, j'ai le souvenir très, très merveilleux de ça. C'était très intéressant parce que il fallait partir d'un mot à mot qui était fourni par l'exégète et à partir de là, essayer de faire de la littérature. Mais l'important pour moi, en tout cas, c'était il fallait pas faire le malin, il fallait pas jouer avec des effets de littérature qui se seraient surajoutés au texte biblique. Il fallait être à son service, quoi. Ce qui fait que... Je sais que oui, ça a pris 5 ou 6 ans, je crois, ce travail. Et c'était... Et je sais que, bon, on était... Il y avait tout un groupe d'auteurs, il y avait Olivier Cadio, il y avait beaucoup... Et on se retrouvait pour parler de ça de façon très, très, très passionnée, quoi.
Quel est votre rapport à la foi ou au sacré ou à la transcendance?
Il n'est pas très existant.
Oui. Comme la plénitude.
Ouais, ça...
Je commence à mener l'enquête sur vous.
Oui.
Il y a des choses qui vous illuminent?
Oui, forcément, dans le, je sais pas, dans la lumière, dans les livres, dans les...
Fromage?
Oui, enfin, faut voir.
Tous les fromages qui écoutent cette émission sont très vexés. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past. But still I fall in love so easily. I fall in love too fast. I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast. Le standard de ce soir, c'est Chet Baker, I Fall In Love Too Easily, dans la 20e heure, sur France Inter. Je suis avec Jean Echenoz et il est temps de découvrir votre choix musical.
Me and my shadow strolling down the avenue. Me and my shadow, not a soul to tell our troubles to. And when it's 12 o'clock, we climb the stair, we never knock.
Me and my shadow par Whispering Jack Smith. Comment se porte votre ombre, Jean Echenoz?
C'est une des raisons pour lesquelles j'avais choisi cette chanson, parce que Me and my shadow, je trouve que c'est un très beau titre. J'aimerais bien le prendre aussi. Si.
Moi et mon ombre,
ouais,
ce serait un des plus longs de vos titres.
Oui, peut-être, oui. Peut-être que ce serait plus poli de dire mon ombre et moi, d'ailleurs. Mais c'est une voix que je trouve très très émouvante, parce que Whispering Jack Smith, donc qui murmurait, enfin c'était son surnom. Je crois que cette voix un peu chuchotante, c'est lié au fait qu'il a été gazé pendant la Première Guerre mondiale, qui est revenu et que sa carrière de chanteur est repartie ensuite avec ce espèce de handicap de la voix un peu soufflée comme ça. Et voilà, et puis ça, comme j'avais un peu aussi à un moment travaillé sur la guerre de 14, voilà, ça a été une articulation.
Deuxième mouvement lent du concerto pour piano en sol majeur de Ravel. Et c'est une musique qui a beaucoup compté, comme celle de Stravinsky pour vous, Jean Echenoz, notamment quand vous écoutiez Ravel. Vous avez une écriture très musicale. Je crois que vous avez aussi été influencé par le jazz, par Thelonious Monk.
Je sais pas. À un moment, je pensais ça, mais je sais pas si au fond, si on est tellement influencé par la musique, si c'était. Mais la musique de Thelonious Monk, par exemple, c'est quelque chose qui a dû jouer dans les dissonances, dans les déséquilibres, les accords improbables et en même temps extrêmement extrêmement contrôlés. La musique de Monk, je crois que c'est la chose. Enfin, c'est le seul musicien qui me semble avoir eu, un effet. Je dirais pas littéraire, mais un effet sur les phrases, quoi, sur l'articulation.
Vous faites toujours de la contrebasse free jazz?
Non, il y a bien longtemps que je fais plus. Non. J'ai pas vraiment joué de la contrebasse. J'ai joué avec une contrebasse. Hein. C'était dans ma jeunesse, mais j'étais pas assez obstiné pour poursuivre cette étude.
En tout cas, vous avez fait des opéras. Par exemple, vous avez adapté Les Éclairs. Est-ce que vous avez d'autres projets d'opéra?
Là, en ce moment, on travaille avec le même compositeur, avec Philippe Hersant, sur un nouveau projet d'opéra. Oui. Là, on travaille sur. Je lui ai donné un premier état d'un livret et on travaille maintenant pour harmoniser son propre projet avec ce que je lui ai proposé. Et c'est un grand plaisir de travailler avec Philippe Hersant, parce que c'est une complicité assez unique.
En tout cas, quand on vous lit, Jean Echenoz, on ne peut pas s'empêcher de penser à la musique. Bon, déjà, il y a un type qui s'appelle Chopin dans là, qui a Brubeck, comme le jazzman Dave Brubeck, mais écrit différemment dans Bristol. Et puis, il y a la rue des eaux, souvent déserte, allitération, froissement feutré, frileux, fragile de la pluie quand elle tombe, et une description de deux hommes, cou massif et menton percussif, regard fixe et froid, crâne bas. C'est de la poésie en prose, vous qui avez écrit, pourquoi j'ai pas fait poète ?
Moi, c'est très important pour moi d'injecter dans de la fiction des outils de la poésie et de... Ouais, d'injecter, je vois pas d'autre mot, des éléments de description ou de situation qu'on peut traiter comme des objets poétiques. Mais ça, j'y tiens même beaucoup plus qu'à la dimension quelquefois plus légère.
Et vous vous moquez de vous-même quand plus jeune vous écriviez justement des choses poétiques que vous qualifiez de niaiserie post-René Char ou Robert Desnos ou encore de sous William Burroughs.
Je les ai retrouvés il y a quelques années, ces poèmes dans des... Et je me suis empressé de les détruire.
Vous en voyez.
Mais c'était des pages d'écriture, c'est quelque chose qu'on... Je pense que ça fait partie d'une espèce de formation qu'on se donne à soi-même.
Des gammes.
C'est un peu des gammes, oui. Ouais.
Est-ce que vous envoyez toujours des SMS en alexandrin avec votre fils ?
À l'occasion. Oui. À un moment, on a eu cet échange-là métrique, mais quelquefois, on va plus vite quand même.
Oui. Alors, on a parlé de cinéma, et comme vous êtes visuel, parlons de peinture. J'ai découvert un tableau que vous adoriez, la contre-attaque de Micheletto, da Cotignola, de Paolo Uccello, que vous alliez voir tous les matins au Louvre, grâce à une carte de presse fictive.
Non, elle n'était pas fictive, elle était fausse. Enfin, c'était une revue pour laquelle je donnais des petits articles qui m'avaient donné cette carte de presse. Ça avait l'air d'un document officiel, ça ne l'était pas. Mais ça me permettait, c'est une époque où j'étais pas très argenté, ça me permettait d'aller au Louvre. Et comme j'étais pas très occupé non plus, j'allais au Louvre presque tous les matins et très souvent pour revoir ce tableau. Ouais.
Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce tableau ?
Ce qui me plaisait dans ce tableau, il y a une infinité de choses. Il y a les regards qu'on voit à travers les haumes qui sont levés, l'alignement des lances qui renvoie à cet alignement de jambes des combattants. Il y a une espèce de mouvement extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est ces regards qui apparaissent. Dans le casque ou le home entrouvert comme ça, c'est un des tableaux les plus bouleversants que je connaisse.
Je vais rappeler le titre pour les auditeurs qui voudraient le regarder sur internet et on le mettra sur le site. La contre-attaque de Micheletto da Cotignola de Paolo Uccello. Et on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup Jean Echenoz.
Merci.
Votre nouveau roman Bristol est paru aux éditions de Minuit et vraiment, je le recommande. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Irma Daniche et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Vincent Désière. Dans le prochain épisode, il sera question de poésie, de théâtre et de transdéclamatoire avec Laura Vasquez.